Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui, pour animer cette émission, Marie et Dominique, bonjour.
Bonjour.
Depuis mars dernier, qu'il pleuve, qu'il vente, une équipe d'archéologues s'affaire sur le parvis de la cathédrale d'Angers. On remonte le temps avec Frédéric Guérin, coordinateur des fouilles, et on lève le voile sur les incroyables découvertes sur le site. Et puis comme chaque année, l'Université catholique se met en quatre pour concocter un programme culturel varié, destiné aux étudiants mais pas que, Anne Proutot, déléguée à la vie culturelle, est là pour en parler avec nous. Tout de suite, on commence avec vous Dominique et c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Tous ceux qui aiment flâner dans les rues d'Angers ont constaté qu'un grand chantier se préparait depuis de nombreux mois sur le parvis de la cathédrale Saint-Maurice et la phase recherche archéologique vient de s'achever. Dominique, vous nous en dites plus.
Oui, les recherches archéologiques précèdent toujours la mise en chantier d'un bâtiment en secteur historique. Et je reçois aujourd'hui Frédéric Guérin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable scientifique de l'antenne angevine de l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives, et vous avez eu la responsabilité de mener cette opération. Mais laissez-moi d'abord expliquer les raisons de ce chantier du portail de la cathédrale au bout de l'escalier de la montée Saint-Maurice. Ce portail, il a été sculpté vers 1150 en prolongement de la nef et il témoigne de la diffusion des modèles dans la moitié nord du territoire français, comme à Chartres par exemple. Il est très rapidement entièrement peint. Par contre, en 1807, l'ensemble est couvert d'un badigeon, le goût de l'époque académique étant au blanc et à la clarté. Une restauration est entreprise à partir des années 2009, s'achève en 2019. C'est un chantier d'une décennie qui découle d'une restauration avec un important travail de recherche. Les ouvrages de ce portail s'étaient malheureusement progressivement dégradés sous l'effet des pluies, des vents, des changements brutaux de température et des ruissellements. Et les polychromies de ce portail étaient devenues invisibles, recouvertes par des badigeons épais et par des salissures. Ce portail, il était précédé par une galerie. Elle avait été construite vers 1225 sur toute la largeur de la façade ouest de la cathédrale et sur une profondeur de 7 mètres. Elle formait donc un espace de transition entre l'espace public profane extérieur et l'espace sacré intérieur de l'édifice, avec de multiples usages pour cette galerie, à la fois chapelle, lieu d'inhumation, de commerce pieux et même d'atelier. Donc un lieu de vie assez intense. Cette galerie, elle a été démolie vers 1807 car estimée en très mauvais état. Toutes les conditions des études ont conduit à la nécessité de la reconstruction pour protéger sa sculpture et ses polychromies. Et c'est le ministère de la Culture, qui est propriétaire de la cathédrale, qui a donc lancé l'ambitieux projet de cette construction d'extension contemporaine. 5 architectes ont répondu au concours et le jury a retenu les dessins du japonais Kengo Kuma. Le projet va enfin bientôt voir le jour, puisque les fouilles préalables sont bientôt achevées. Alors Frédéric, Monsieur Frédéric Guérin, quelles sont les opérations préalables à l'ouverture d'un chantier comme celui-là ?
Alors d'abord, juste une petite précision par rapport à votre chapeau. Je ne suis pas le responsable de l'antenne INRAP de Beaucouzet. Je suis un des responsables d'opération qui intervient sur cette base. Voilà.
Mais par contre, vous étiez le responsable du chantier de la cathédrale.
Exactement. Exactement. Et en réalité, donc, en préalable, en 2016, j'ai effectué ce qu'on appelle un diagnostic, donc une sorte de mission d'expertise. Et cette mission qui nous a été commandité par le service régional de l'archéologie, a mis en évidence les restes de la galerie donc, du début du XIIIe, ainsi qu'une quantité assez importante d'inhumations, tant situées à l'intérieur de la galerie qu'en périphérie immédiate.
Donc on ne partait pas à l'aventure, on avait déjà un certain nombre d'éléments scientifiques qu'on venait de compléter, j'imagine.
Voilà. Et puis, en fait, le but de la fouille, c'est de préserver un petit peu la mémoire du site par l'intervention archéologique.
Alors, on commence généralement le chantier par dresser l'enclos. Mais après, je suis toujours, je m'interroge toujours sur la manière dont on commence. Est-ce qu'on commence par strates successives ou est-ce qu'on commence par plonger verticalement îlot par îlot?
Non, en réalité, on essaye autant que faire se peut de fouiller dans l'ordre, en respectant un petit peu la stratigraphie, ce qui permet d'avoir quand même une vision le plus scientifique possible des différentes structures archéologiques et de les replacer dans leur contexte archéologique.
Donc, si je comprends bien, on commence par mettre à jour les structures les plus modernes.
Voilà,
chercher les plus anciennes,
voilà,
qui sont évidemment toujours en dessous.
Exactement. Théoriquement, oui. Des fois, il y a des phénomènes d'inversion stratigraphique, mais là, ce n'était pas vraiment le cas.
Bon. Et donc, on sait à peu près à quoi on va s'attendre, quelles sont les découvertes
Eh bien, écoutez, nous, ce qu'on savait grâce au diagnostic de 2016, c'est qu'on avait d'une part donc des niveaux de la période moderne et des périodes médiévales qui étaient relativement bien conservés. Et grâce au sondage géotechnique qui avait été réalisé pour la CRMH, juste devant le portail, on avait également une idée de l'épaisseur stratigraphique présente sous les pavés, en définitive, du parvis. Et effectivement, on a pu nous exploiter un petit peu ces carottages et mettre en évidence la présence d'environ 5 mètres de stratigraphie qui nous aurait permis, si on avait pu descendre jusque-là, d'aller jusqu'au premier temps de la ville romaine d'Angers.
D'accord, mais donc ça n'a pas été justifié en raison du projet que vous connaissez
bien. Exactement, c'est-à-dire qu'on avait une cote travaux qui correspond au projet de la future galerie qui va voir prochainement le jour et qui était de 1,60 m. Donc déjà, à cette profondeur-là, on a pu acquérir un grand nombre de données. Parfois, il nous est arrivé de descendre un petit peu plus profond histoire de répondre aux questions. Mais globalement, même si ça, pour nous, ça évoque une certaine forme de frustration parce qu'on sait quel est le potentiel, on a malgré tout une moisson très importante de données qu'il va nous falloir exploiter dans le cadre du post-fouille.
D'accord. Ouais. Alors, y a-t-il eu des surprises particulières, des révélations auxquelles on ne pouvait pas s'attendre en démarrant le chantier ?
Ah ben oui, on peut en citer au moins trois. La première, c'est l'existence d'une voie médiévale qui a fonctionné probablement entre la construction de la cathédrale romane, voilà, c'est ça, donc au début du XIe siècle, et l'aménagement de la galerie au début du XIIIe siècle. Ça,
d'accord,
c'était une rue qui n'était pas du tout connue.
Donc voilà. Antérieure, évidemment,
à la façade actuelle.
Aux finitions de la cathédrale.
Exactement, exactement. L'autre élément un petit peu inédit, c'est la présence d'une structure destinée à la fabrication de cloches dans le portail. Alors, ce que l'on sait d'un point de vue chronologique, c'est que cette structure qui faisait à peu près 2,60 m de diamètre interne pour une profondeur d'environ 2,40 m est postérieure au début du XIVe siècle. Donc, elle s'inscrit probablement entre la fin du Moyen-Âge et le début de la période moderne. Pour le moment, on n'a pas plus d'éléments chronologiques que cela, mais on a fait des prélèvements, notamment de charbon de bois, qui vont nous permettre de resserrer un petit petit peu la datation.
Donc ça, c'est un outil qui permet de travail, qui permet la réalisation des cloches.
Voilà,
qui était donc fondu sur place, pas du
exactement.
Tout comme aujourd'hui.
Exactement.
Aujourd'hui, ils sont fondus en atelier puis transportés. Là, on les fabriquait
sur place. C'est quelque chose d'assez commun. Ce qui est un petit peu hors du commun, c'est cette structure qui a servi probablement à la fonte de plusieurs cloches. On en a des témoignages archéologiques. Et sa taille, parce qu'en réalité, on retrouve fréquemment devant les églises ce type de dispositif artisanal. Mais là, franchement, c'est la première fois qu'on voyait un élément de cette dimension. Voilà.
Autre question que je me pose souvent, comment est-ce qu'on compose une équipe pour ces fouilles archéologiques? Est-ce qu'on fait appel à des spécialités particulières en fonction du chantier?
Exactement. Alors
tout le monde n'a pas les mêmes missions, tout le monde n'a pas les mêmes fonctions.
Tout à fait, parce que effectivement, moi je ne suis pas le seul à travailler et Dieu merci, il y a des tas de collègues qui ont apporté leurs compétences. Je peux citer notamment Oxane de Lépineau, qui était l'anthropologue INRAP de l'équipe. On a eu également l'intervention de Michael Montaudon, qui fait partie du pôle archéologique du département de Maine-et-Loire, puisqu'en fait, c'était une opération qui était dirigée par l'INRAP, mais qui s'est effectuée en collaboration avec le service départemental d'archéologie de Maine-et-Loire. Et puis, à côté de ça, on a pu faire appel également au service d'Arnaud Rémy, s'agissant de l'étude.
Alors, expliquez-nous, c'est quoi ?
De quoi ?
Arnaud Rémy,
qui est donc archéologue, qui travaille lui aussi au pôle archéologique du département est spécialisé dans l'étude des bâtis.
D'accord. Le projet de l'architecte guide-t-il en fait la manière dont vous allez effectuer ces fouilles ?
Ah ben oui, en partie, notamment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en termes de profondeur d'intervention.
Vous allez là où se vont situer les impacts de la construction
exactement,
à venir.
Voilà, exactement. Voilà.
Alors, inversement, est-ce que vos relevés peuvent éventuellement modifier le projet architectural ou en tout cas les fondations du projet tel qu'il a été dessiné par l'architecte ?
Non. Il faudrait vraiment des découvertes exceptionnelles, même si on peut considérer que plusieurs de ces découvertes sont exceptionnelles. Mais ça ne va absolument pas modifier la configuration du projet.
Pour que M. Kengo Kuma reprenne le crayon et formule un nouveau projet.
À ma connaissance, non.
J'imagine que tout ce travail qui a duré plusieurs mois...
Six mois précisément.
Six mois, d'accord. Ouais. Après ces 6 mois passés sur place, il y a, j'imagine, un temps précieux aussi qui est consacré à l'archivage.
Exactement.
À la mise en forme de la documentation.
Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de commencer. Il y a tout un travail.
C'est combien de temps, je veux dire ? C'est six mois plus six mois ou...
C'est plusieurs mois. Ce sera déjà un travail de nettoyage de tous les éléments archéologiques. On a quand même découvert plus de 170 squelettes. Donc il faut les conserver, il faut les nettoyer déjà, et il faut ensuite les conditionner de façon la plus scientifique que possible, de manière à fournir donc des pièces anatomiques qui soient facilement étudiables par l'anthropologue qui a participé également à la fouille, mais qui va faire cette fois-ci un travail de laboratoire.
Bon, je reviens un peu en arrière. Vous nous avez parlé de 3 découvertes particulières. C'était donc la voie, c'était donc le nombre de sépultures. Et le troisième, vous ne nous avez pas parlé ?
Alors, le troisième, il s'agit d'une série de fosses dépotoirs qu'on a découvert plutôt dans la partie sud, si vous voulez, sur la droite du portail.
Voilà. Oui,
et il s'agit de fosses qui ont livré énormément de restes de repas carnés, donc des os d'animaux. Ce qui est intéressant, c'est que ces fosses se rapportent au premier Moyen-Âge, donc sans doute à la période carolingienne, d'après le mobilier céramique qu'on y a découvert en association. Et donc, ça va donner l'occasion d'avoir, là encore, de belles perspectives d'études complémentaires.
Ouais. C'est pas une blague, mais les archéologues aiment bien fouiller les poubelles.
Exactement.
Et ils ont raison, parce que je comprends parfaitement bien qu'on peut retracer la manière dont on vivait une certaine époque en fonction de ce qu'on va retrouver dans les poubelles.
De plus en plus, si vous voulez, il y a des études spécialisées comme la parasitologie, l'anthracologie, la palynologie, qui sont des sciences complémentaires de l'archéologie et qui, justement, éclairent un petit peu le site dans sa dimension environnementale et humaine.
Vous avez parlé donc actuellement, vous procédez au nettoyage des éléments déposés.
Voilà.
Est-ce qu'après nettoyage, tous ces éléments font l'objet d'une présentation dans un lieu particulier?
Alors,
Qu'on aura le droit, comme à la cathédrale Notre-Dame de Paris, un musée de l'œuvre?
Eh bien, écoutez, ce qui serait effectivement intéressant, c'est que pas seulement pour la cathédrale, mais toutes les collections archéologiques qui sont ô combien riches sur le Maine-et-Loire puissent faire l'objet d'une présentation. Alors, est-ce qu'il y aura plus tard une exposition spécifiquement dédiée aux découvertes de la cathédrale? Ça, pour le moment, je ne peux pas vous le dire, mais on ne peut que le souhaiter.
On ne vous a pas demandé de présenter une vidéo, par exemple, retraçant ces 6 mois de travail qui pourrait être projetée à l'intérieur du porche?
Ce serait effectivement... Nous, on a fait quelques vues, bien entendu, mais pour le moment, il n'y a pas de demande en ce sens-là. Pour le moment, on est un petit peu la tête dans le guidon. On récupère toutes les données qui ont été amassées lors de la fouille et puis on les met en ordre, comme je vous l'ai dit. Et bon, plus tard, on est effectivement ouvert à de la valorisation, en fait, de ces découvertes, quoi.
Frédéric Guérin, merci infiniment d'être venu jusque dans les studios de Radio Campus. Je pense qu'on se reverra très prochainement parce que je crois comprendre que vous attaquez d'autres chantiers qui seront au moins de la même importance.
Peut-être pas de la même importance, mais qui ont également leur intérêt en tant que tel.
Bien sûr. Et je répète à nouveau que votre travail sert à réécrire souvent l'histoire ancienne.
Oui, à apporter un éclairage un petit peu nouveau et à apporter également ma pierre à la construction de l'édifice et des connaissances sur la ville. Voilà.
Merci infiniment encore.
Je vous en prie.
À très bientôt.
Merci à vous.
Merci Dominique. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus avec Franche Culture et tout de suite une petite pause musicale avant de retrouver Marie avec Anne Proutot. Petite pause musicale avec Flavia Coelho qui se produira au Chabadal 28 novembre prochain avec son titre Billy Django. Les propositions culturelles de l'Université catholique, donc avec vous, Marie.
Anne Proutot, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez la littérature française contemporaine et présidez la Société des études camusiennes, on va y revenir dans quelques instants, mais aujourd'hui, c'est votre casquette de déléguée à la vie culturelle de l'UCO, l'Université catholique, qui nous intéresse. Comme tous les ans, le programme est diversifié, très riche. On va s'attarder sur 3 événements, un prix littéraire, le prix Beuduel, une conférence, Camus chez les Justes, et une résidence d'artiste avec Sylvie Germain. Alors le prix Beuduel, il est attribué cette année à l'auteur japonais Akira Mizubayashi pour Suite inoubliable. Le prix Beuduel s'est attribué à une œuvre littéraire francophone faisant dialoguer les arts et interrogeant leur rapport au sacré, C'est la 4e édition déjà. La remise des prix, c'est le 20 novembre. Ah, et en présence de l'écrivain.
Pas le 20 novembre, c'est lundi 25. C'est lundi.
C'est lundi
25 novembre.
C'est pas aujourd'hui.
Non, je ne serai pas à vos côtés.
Ah bon?
Alors lundi.
Alors c'est le lundi 25. Je rectifie. Attribution du prix Beduel le lundi 25 à l'Université catholique. Alors, pourquoi a-t-il eu ce prix? En quoi il correspondait, Akira Mizobayashi? Alors, à quoi il correspondait au prix Beduel?
Oui, c'est un auteur qui a déjà publié autour de la question de la musique, hein, peut-être.
De la transmission et la musique.
Voilà, Dame brisée.
Son précédent ouvrage.
Non, il y a eu Reine de cœur entre les deux. À chaque fois, finalement, chaque roman est consacré à un instrument. Cette fois-ci, c'est le violoncelle. Disons que c'est un livre extrêmement émouvant, une histoire de transmission autour d'un violoncelle. Cette histoire de la musique finalement se développe sur un terrain de violence, hein, la guerre sino-japonaise, qui va faire que des vies vont être fauchées. Donc c'est un grand livre, finalement une grande invitation à la paix et à la transmission et à l'amour. Voilà. Pour quelle raison il a reçu ce prix Beduel?
Il écrit en français.
Il écrit en français, il parle parfaitement le français. Lundi, ça va être une soirée exceptionnelle puisque nous aurons un violoncelliste professionnel, également des étudiants de musicologie qui vont jouer aussi quelques morceaux liés à ce roman, qui cite beaucoup Bach en particulier, ainsi que Pablo Casals pour Chant des oiseaux. Donc ça va être superbe. C'est 1h, 1h10 à passer ensemble avec Akira Mizobayashi et à la suite, une séance de dédicace grâce à la librairie Lerio.
Les fidèles. Alors, il a eu, c'est vrai que c'est son troisième roman sur cette notion de transmission et de musique. Le premier de ses romans s'est vendu à 100 000 exemplaires, il me semble. Donc voilà, un auteur avec énormément de succès.
En tout cas, c'est un auteur francophone.
Oui.
C'est extrêmement...
Alors, c'est ce que j'allais vous dire, de creuser un peu, en fait, en quoi il a eu le prix Beduel. Le prix Beduel, qu'est-ce qui vous tient à cœur, vous, avec ce prix-là?
Je crois que vous l'avez bien dit. C'est un prix qui a été créé en l'honneur du prix Beduel, qui a été recteur à l'université. Guy Beduel, qui était un homme très cultivé, un homme très humaniste, et qui aimait beaucoup les arts. Donc à chaque fois nous cherchons, c'est pas évident d'ailleurs.
Mais oui, je voulais en parler ça. Vous cherchez donc un livre francophone.
Un roman francophone, de qualité, avec une belle qualité littéraire, qui témoigne d'un dialogue entre les arts. Donc là, évidemment, c'est parfait, on l'a. Et d'une ouverture au sacré. Une invitation à regarder plus haut, vers des valeurs universelles. Là, c'est le cas. Notamment avec vraiment cette invitation à la paix.
Alors, est-ce qu'on peut en parler un peu d'Akira Mizobayashi?
Si vous voulez, si on a le temps. Mais
allez-y.
Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il vit au Japon. C'est un grand spécialiste du 18e siècle, de la littérature du 18e siècle.
Français. Il est professeur de français au Japon.
Il est professeur de français au Japon. Et c'est quelqu'un qui passe aussi chaque année pas mal de mois en France. Et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'une chose que je pourrais partager là, c'est que dans le roman, il est question d'un jeune Ken qui passe des heures, beaucoup d'heures, chaque jour à faire son violon. Et en tout cas, lui, il a pratiqué parfois jusqu'à 15 heures d'apprentissage du français. Et comme je sais que vous viendrez lundi, vous constaterez par vous-même à quel point c'est aisé de l'entendre et combien le français, il a fait sienne cette langue qui est sa langue de création.
Il écrit très très bien en français, il parle bien, donc on constatera tout ça le lundi 25 novembre.
À 18h.
À 18h.
Amphibazin.
Amphibazin.
Entrée gratuite.
Il va y avoir du monde parce que, je le redis, c'est un écrivain qui a eu beaucoup de succès depuis plusieurs années.
Je pense que ça va être une pause merveilleuse dans nos vies.
Alors, on va aller là maintenant le 5 décembre. J'espère que je ne me trompe pas. 5 décembre, 18h, Amphibeduel. Vous allez, vous, animer une conférence organisée autour de la publication d'un ouvrage que vous avez rédigé qui s'intitule « Camus ». Camus chez les Justes. Je rappelle que vous êtes présidente de la Société des études internationales des études camusiennes. Alors pourquoi, je vais être un peu provocatrice mais gentiment, pourquoi cet ouvrage? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Camus?
Justement, c'est bien ça. Me reposer tout de suite, et nous n'allons pas pouvoir nous reposer tout de suite puisqu'il s'agit d'un collectif. Oui, effectivement, ce qui me fait plaisir, c'est que ce livre parle d'une période méconnue de la vie de Camus, où Du fait de sa tuberculose, il a dû quitter l'Algérie en urgence et partir en Haute-Loire, pas n'importe où, au Chambon-sur-Lignon. C'était quelques kilomètres, 3-4 kilomètres du Chambon-sur-Lignon, puisque sa femme avait de la famille qui tenait une pension de famille là-bas. C'était un lieu qui était réputé pour les cures d'air. Et en fait, ce lieu, évidemment, c'est pas n'importe quoi, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un haut lieu de résistance protestante contre le nazisme, et notamment ils ont sauvé de nombreux juifs. Donc Camus reste pendant 15 mois, puisqu'il aurait dû repartir en Algérie avec sa femme, mais il n'a pas pu parce que le débarquement des Alliés le 8 novembre a empêché toute communication. Il est donc coincé, d'ailleurs il écrira dans ses carnets comme un rat. Et bah, que va-t-il faire dans ce lieu qu'il déteste par certains aspects, qu'il apprendra à aimer par d'autres, qui ne lui rappelle pas du tout sa Méditerranée. Il se sent complètement en exil, loin du soleil, de la lumière, de son Algérie natale. Et il va faire beaucoup de choses. Et c'est tout ce que cet ouvrage raconte. Il va s'atteler en particulier à une deuxième version de la peste.
Oui, il a rédigé.
Et puis le malentendu, l'être un ami allemand. Il va à la fois avoir beaucoup de temps de solitude, mais rencontrer beaucoup de résistants quand il va se faire soigner à Saint-Étienne. Donc, finalement, on va faire revivre toute cette petite communauté avec laquelle il noue des relations profondes et montrer en quoi ce séjour va transformer Camus.
Alors, Camus chez les Justes, c'est juste avec un J majuscule. Qu'est-ce qu'un juste ? Peut-être qu'ils ne savent pas.
Ben oui, en tout cas, c'était un jeu de mots au sens où Camus a écrit la pièce de théâtre Les Justes, et j'ai souhaité que ça s'appelle comme ça, puisque le Chambon-sur-Lignon va recevoir la médaille des Justes pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Qu'est-ce qu'apporte Camus au lecteur d'aujourd'hui ?
Ah bah écoutez, oui, c'est une vaste question.
Là, je pense, une heure de conférence.
Voilà, là, si c'est parti, je croyais qu'on avait 3 minutes. Non, mais écoutez, en tout cas, il faut le lire. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'en tout cas, Camus est très lu aujourd'hui. Vous savez que pendant la période du Covid, la peste a atteint vraiment un nombre d'exemplaires vendus incroyable. C'est quelqu'un qui a su, qui a été relativement clairvoyant en termes, on va dire, idéologiques, politiques, certaines options qu'il a prises. Et puis, je pense que c'est un grand écrivain, dans le sens où le texte n'est pas périmé. Hein. Ce n'est pas parce que Camus est mort depuis longtemps, mais que quand vous ouvrez L'Étranger, vous avez toujours cette part de poésie, cette part d'énigme. Et c'est quelqu'un qui a su, je pense, montrer ses doutes aussi, et qui... Il ne le voulait pas, mais qui a servi de point de repère, qui peut nous servir de point de repère
toujours
éthique.
Aujourd'hui. Il reste... Alors, je vais le citer parce qu'en 1951, il a écrit, « J'ai commencé la guerre de 1939 en pacifiste et je l'ai fini en résistant. »
Oui, ça dit bien justement ce que nous avons découvert dans ce travail autour de Camus au Chambon, parce qu'effectivement, il est arrivé, il était pacifiste, son père était mort à la Première Guerre mondiale. Jeune homme comme tant d'autres, Camus était très marqué par cela. Et Camus donc était plutôt dans un refus de la guerre. Mais à partir du moment où c'était le cas et la guerre est engagée, en tout cas, et sans doute par ce côtoiement de grands résistants au Chambon-sur-Lignon, il a écrit plusieurs textes en disant que si la violence parfois, elle était certainement injustifiable, mais inévitable, surtout pour se battre contre l'ennemi nazi.
Ce sera le 5 décembre.
Oh, oui, avec entretien avec Catherine Mallard. Hein, je ne vais pas parler toute seule, c'est très bien. ce sera.
Alors, on va se téléporter en 2025, du 17 au 30 mars. Sylvie Germain, qui est une auteure aussi prolifique et qui a beaucoup de succès, elle sera là en résidence d'artiste. Elle a obtenu de nombreux prix, le Fémina, le Goncourt des lycéens, le prix Jean Giono. Elle est une œuvre assez singulière entre la... un peu de philosophie, elle fait appel beaucoup à l'imaginaire. Elle est étudiée au lycée, à la fac, en prépa. Alors, en quoi ça consiste finalement une résidence d'artiste et surtout la sienne ?
Oui, alors elle va être sur le lieu pendant 15 jours et en fait elle a une mission, c'est-à-dire que nous allons la mettre face à notre patrimoine. Vous savez qu'on a les très belles tapisseries, la peintière, il y a aussi l'oratoire de la fac de théologie qui a été fait par cette mosaïste Mosca de Silva. Également, on a des fonds de documents anciens qui sont remarquables, nous avons des papillons, des oiseaux, enfin, c'est incroyable le patrimoine de Lucot. Donc elle va être face à ce patrimoine et elle va produire un texte.
Voilà. Un geste d'écriture.
Absolument. Ouais, ouais. Et elle va donc faire, en plus, il y aura donc cette soirée du 17 mars où elle va parler de ce que c'est qu'écrire. Et puis également un café philo pour les étudiants. Hein, c'est aussi les étudiants pour pouvoir profiter de sa présence. Donc c'est une chance d'avoir une telle, c'est une d'une telle écrivaine au style éblouissant. Il faut lire Sylvie Germain, je vous encourage.
Notamment Magnus.
Camus et Sylvie Germain.
Voilà. Anne Proutot, on adore vous écouter. Marie, il va falloir conclure.
Anne Proutot, merci. Je rappelle que le programme des activités culturelles est très varié. Il est ouvert à tous. Vous retrouvez tous les renseignements sur le site service.culturel@uco.fr. Merci beaucoup.
Merci.
Alors Dominique, vous nous parlez, vous, de l'association Atelier d'artistes. C'est quoi ? Et très rapidement.
Très rapidement. L'association est une association angevine d'artistes. Elle est très active depuis une dizaine d'années sur Angers, plusieurs dizaines d'années même, je dirais. Elle propose donc des travaux de peinture, de dessin, de gravure, de céramique, de textile, de sculpture, même de photographie. Donc tout l'univers artistique est regroupé au sein de cette association. Et elle reçoit chaque année, chacun des artistes reçoit le public pour présenter ses locaux et les œuvres des artistes. Ils seront cette année 27 au total et se répartissant sur 17 ateliers. La manifestation a lieu les 23 et 24 novembre prochains, de 10h à 19h. C'est bien sûr un parcours complètement libre, complètement gratuit, à la fois sur les communes d'Angers, de Trélazé, de Bouchemaine et de Mur-et-Rigné. Mon conseil, c'est de commencer cette déambulation par aller visiter l'exposition collective qui regroupe une œuvre par artiste, et qui est proposé à la chapelle Saint-Lazare grâce au soutien de la ville d'Angers.
Voilà, dans la Doutre.
Dans la Doutre. Et vous pourrez d'ailleurs, en faisant cette visite à la chapelle Saint-Lazare, prendre les dépliants du parcours, que vous pouvez également aussi retrouver dans les offices de tourisme et dans les lieux culturels de la ville d'Angers, c'est évident. Je répète, 23-24 novembre, 10h, 19h, visite des ateliers d'artistes.
Eh bien, c'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Étienne et Sylvain pour la technique. Et puis, retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h, ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.